Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le processus de démobilisation et désarmement des miliciens de la FRPI en Ituri dans l'impasse, constat de la notabilité de Walendu Bindi Tene, les premiers miliciens désarmés ont quitté leur site faute de prise en charge et se rabattent sur la population, s'inquiètent les autorités locales. Sauf imprévu, les consultations présidentielles se clôturent aujourd'hui. Entre-temps, le député national Fidèle Likinda plaide pour la consolidation de la coalition FCC-CACH, qui pour lui reste la solution pour l'équilibre des institutions du pays. Et puis, l'Organisation des jeunes chrétiens pour le développement basée dans le Nord Kivu s'emploie à lutter contre la discrimination et la violence faite aux enfants vulnérables. Dans ce cadre, elle prévoit notamment une semaine de prière pour les enfants. Aimé Balibouno, présidente de cette organisation, est l'invitée de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. La notabilité de la chefferie de Walendu Bindi et la société civile locale dénonce la lenteur dans le processus de démobilisation et désarmement des miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Ces organisations doutent de l'aboutissement de ce processus vu la situation qui prévaut en ce moment sur le site d'Azita. Selon des témoins, les premiers miliciens désarmés qui s'y trouvaient sont repartis quelques mois après, faute de prise en charge par le gouvernement. Du coup, ils se rabattent sur la population, affirment les autorités coutumières de cette entité dans un point de presse tenu hier à Bunia. Des précisions avec Ezekiel Mouzalia.
Le processus de démobilisation et de désarmement des miliciens de la FRPI dans la partie sud du territoire d'Irumu est toujours dans l'impasse. Ce constat est fait par la notabilité de la chefferie de Walendu Bindi ainsi que par la société civile locale. Ces organisations redoutent l'échec du gouvernement central à faire aboutir ce processus dont l'objectif est pourtant de pacifier ces territoires confrontés aux exactions des éléments de ces groupes armés depuis environ 20 ans. L'extrait de leur déclaration est lue par leur porte-parole, Claude Iribi, chef coutumier.
À la communauté internationale, faire un plaidoyer au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, à la FRPI, arrêter les exactions des violations des droits humains, les vols de bétail.
De son côté, le ministre provincial de l'Intérieur précise que les problèmes de prise en charge des miliciens de la FRPI dépendent du gouvernement central.
L'arrêt plutôt justifié par le manque de moyens suffisant pour la continuité.
Pour assurer leur survie, certains éléments de ces groupes armés se livrent au pillage des biens de la population. D'autres n'hésitent pas carrément à ôter la vie à leurs cibles en se servant de leurs armes à feu. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Le 25 novembre, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et à l'occasion, le lancement de la campagne de 16 jours d'activisme contre ce mal. Les organisations des jeunes du Sud Kivu appellent à une mobilisation de tous pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Occasion aussi pour l'organisation dénommée Pamoja RDC d'alerter le gouvernement congolais, des organisations locales, nationales et internationales. Écoutez à ce sujet Abraham Nzogu, chargé de suivi et organisation à Pamoja RDC. Il est au micro de Rachel Kessé.
La plupart des violences que subissent les femmes, ce sont les violences conjugales actuellement, parce que nous venons d'une période de la maladie à coronavirus. Mais ici chez nous en RDC, il y a plusieurs formes de violences. Les violences sexuelles, les violences physiques et les violences économiques, qui est de priver la femme de ses droits, de faire des commerces, de chercher un emploi. À cet effet, pour bien débuter la campagne ce jour d'activisme, l'organisation Pamoja RDC a lancé un appel. Et c'est un peu de s'approprier, de vulgariser le message, vulgariser des lois qui prônent les droits de la femme et de la jeune fille. En République démocratique du Congo, nous avons des lois qui promettent l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notamment la loi sur les violences sexuelles de 2016. Il y a la résolution 1325 des Nations Unies qui fait que la femme soit une pionnière du changement à travers la sécurité et la paix.
Notez que cette année, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes est célébrée sous le thème « Tous unis, arrangez le monde, financez, intervenez, prévenez, collectez ». Restons Sud Kivu, troisième et dernier jour aujourd'hui du dialogue intratribal Bafuliru et Babuyu dans la ville d'Uvira. Hier, les Babuyu sont montés au créneau pour dénoncer les guerres interminables dont ils sont victimes de la part des Babembe dans leur entité à Lulenge. Ces deux dialogues se tiennent séparément et devront se clôturer par une déclaration finale, un acte d'engagement de chacune de ces communautés ainsi que leur cahier des charges adressé au chef de l'État, principal sponsor de ces assises. Fiston Goma.
Les Babouyou accusent le Babembe d'avoir envahi leur entité Kilembwe dans le secteur de Lulenge. Les différentes guerres dont ils sont victimes depuis 1964 ont entraîné des conséquences fâcheuses, dont la disparition complète de plusieurs villages et la fuite des cerveaux Babouyou. Leur porte-parole Massoudi David de Damas.
Nos filles sont violées, nos enfants n'étudient plus, et les Babouyou sont un. Mais l'administration a fait qu'il y a un groupe de Babouyou au Kabambare, au Maniema, et un autre groupe s'est retrouvé au Sud Kivu, dans le territoire de Fizi. Mais de manière coutumière, ancestrale, les Babouyou sont un. Kilembwe, c'est une entité propre aux Babouyou, entité de Mwami Tulungu. Ici, je voulais spécifier, il y a les Bashimimbi, il y a les Basombo et Obekulu. C'est une fraction de Babembe de Lulenge qui s'est imposée sur le sol Babouyou à Kilembwe. Alors, nous voulons en finir avec ça pour revenir dans le processus de la paix.
Le ministre professeur de la justice du Sud Kivu a rappelé à cette communauté de couper le lien avec leurs groupes armés pour donner la chance à la paix, signalant que toutes ces activités visent à préparer le dialogue intercommunautaire qui aura lieu après la rencontre des Bavira et Barundi qui reste à organiser. D'Uvira Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Du côté de Beni, le projet Vijana Mweni Nguvu kwa Amani, ou Jeune Outillé pour la paix, est arrivé à sa fin après 18 mois d'exécution, initié par le Fonds pour la consolidation de la paix de l'ONU, financé par la MONUSCO et exécuté par Paul Institute. Il avait pour objectif d'appuyer et de renforcer les jeunes à la résilience économique afin qu'ils participent aux activités de stabilisation dans la région de Beni. Au moins 260 jeunes du Nord Kivu en ont bénéficié, dont 60 de Beniville. Léopold Mouliro, chercheur à Paul Institute de Goma, parle ici du déroulement de ce projet et la leçon tirée. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Les activités se sont bien déroulées dans le projet, dans l'ensemble, parce que là, les jeunes ont appris à faire le dialogue démocratique, ils sont en train de le témoigner maintenant. Ils ont appris plusieurs thématiques, ils ont appris plusieurs techniques aussi, notamment ils sont en train de parler de la technique de plaidoyer maintenant qu'ils ont découvert. Ils ont appris aussi les techniques de résistance à la manipulation. Les jeunes sont en train d'exprimer qu'ils sont devenus de plus en plus résistants à la manipulation parce qu'ils savent faire l'analyse de contexte, ils savent faire l'analyse des conflits et d'ailleurs dans certains coins ils nous ont dit qu'ils sont aussi en train de transformer certains conflits qui existent dans la région. La leçon essentielle que nous avons tirée, c'est cet engagement de la jeunesse. La jeunesse a compris qu'elle est responsable de son avenir et qu'elle peut tout transformer si elle s'engage et si elle est accompagnée par des parents qui sont conséquents.
Signalons que ce projet a été exécuté aussi dans trois localités du territoire de Masisi, dans Nyamitaba, Kichanga et Mweso. Je vous le disais en titre, c'est en principe aujourd'hui que se clôturent les consultations politiques initiées par le chef de l'État. Entre-temps, le député national Fidèle Ikinda estime qu'il est impossible de faire basculer la majorité parlementaire sans violer la Constitution et les lois de la République. Au cours d'un café de presse ce mercredi à Kinshasa sur la situation politique actuelle du pays, l'élu d'Ikela dans l'Équateur dit reconnaître l'autorité du président Félix-Antoine Tshisekedi et ses prérogatives constitutionnelles d'initier des consultations politiques, mais il plaide pour la consolidation de la coalition FCC-CACH. Fidèle Likinda au micro de Michel Kifindangoy.
Comment on peut requalifier la majorité parlementaire en plein exercice de mandat? On y peut requalifier cette majorité qu'après les élections. On peut peut-être avoir une majorité de votes, mais quitter de 32 députés à 251 députés maintenant, on va le faire comment? Mon siège ne m'appartient pas. Le siège appartient au parti. Je ne peux pas prendre un engagement en tant qu'individuel et pour dire que non, vous, je suis à 300. Voilà la majorité. Non, c'est faux. Là, on violerait la Constitution, la loi électorale et même notre règlement intérieur. Moi, je pense que nous, Congolais, nous devons soutenir cette coalition pour l'intérêt national, à relâche de guerre. Travaillons ensemble. Les problèmes ne manquent pas là où il y a les hommes. Mais ce qui est important, c'est de trouver des solutions à des différents problèmes posés.
Pour leur part, les notables du Kasaï oriental soutiennent toutes les actions qui seront entreprises par le chef de l'État après ces consultations. Dans une déclaration faite hier, ils disent s'investir dans le plan de redressement de la RDC tel que préconisé par le chef de l'État. Un extrait du mémorandum lu par Marcel Kalala Mutombo, président du comité des notables du Kasaï oriental.
Les notables du Kasaï oriental réunis ce jour au siège de notre notabilité, déclarons ce qui suit. Soutenons avec la dernière énergie toute action entreprise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République démocratique du Congo, telles que les consultations nationales pour la création de l'Union sacrée pour la nation, afin de faire sortir le pays dans la crise provoquée délibérément par les ennemis de notre peuple. Étant donné que cette initiative est salutaire pour l'ensemble du peuple congolais, longtemps sacrifié et martyrisé, le notable du Kassai oriental s'investit énergiquement dans ce plan de redressement du pays pour que le peuple congolais trouve son compte, conformément au slogan qui dit « le peuple d'abord ».
Direction la province de la Tchopo, dépôt hier à l'Assemblée provinciale du dépôt des dites budgétaires pour l'exercice 2021. Au terme de ce dépôt, le gouverneur intérimaire a déclaré à la presse que le budget de la Tchopo n'appartient à personne. C'est un instrument de travail pour la province. Il répond ainsi à une certaine opinion qui pensait que ce projet des dites n'allait pas être reçu dans cette institution à cause d'un malaise existant entre les deux institutions après la motion de défiance controversée déposée contre le gouverneur de la Tchopo, laquelle n'avait pas abouti. Maurice Abibou Sakapela, gouverneur intérimaire de la Tchopo, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Le budget, c'est un instrument de travail pour la province de la Tchopo. Je crois que je dois saluer l'accueil que le bureau de l'Assemblée vient de nous réserver. Comme peut-être les autres pensaient qu'il y avait un problème, moi je crois que c'est une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir. Je crois que nous allons regarder dans la même direction. Quand vous le savez, les conflits, parfois, c'est une source de progrès. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau de l'organe délibérant, personne ne peut plus se comporter comme avant. Chacun est appelé à changer son comportement et sa façon de voir les choses dans la gestion de la chose publique.
Dans l'actualité aussi, cette bonne nouvelle pour les Kinois. Des panneaux des feux de signalisation sont en train d'être installés dans différents carrefours de la ville. C'est déjà le cas sur une partie des communes de Kintambo et de Ngaliema sur l'avenue Colonel Mondjiba. C'est dans le cadre d'un contrat signé entre la RDC et l'entreprise Saint-El depuis 2016, nous a précisé le président de la commission de prévention routière CNPR. Reportage signé Babel Mpongo Massimango.
Ces feux sont déjà opérationnels au croisement des avenues Massamba et Oyua devant l'hôtel Diplomate au quartier GB, au croisement Oyua Komoriko à Kitambo et au croisement Komoriko Colonel Mondjiba devant l'école Aurore en Ngaliema. Ils sont installés par l'entreprise Saint-El sous la supervision de la CNPR, la Commission nationale des préventions routières et l'OVD, l'Office du voirier et drainage. 60 carrefours ont été identifiés à Kinshasa pour en bénéficier, mais seront d'abord implantés dans 36. Le projet cible aussi les provinces, selon le président de la CNPR. L'ingénieur Poupoulé que nous avons rencontré sur le terrain est le point focal de Saint-El et CNPR et supervise ces travaux.
Nous allons les placer là où il y a vraiment des embouteillages, Lumumba, Tuchang, DGCR, IPEN, Makazé de Kintambo, Bypass aussi. Les jours qui viennent, les embouteillages seront vraiment pas considérables.
Les usagers de la route apprécient, mais ils demandent d'aller au-delà.
Le fait des signalisations nous aide tellement, mais il faut des routes secondaires et entretenir aussi les routes que nous avons déjà.
Il faut mettre les traçages.
Il y avait beaucoup l'embouteillage sur cette route. Quand on a mis les feux, quand même, ça va.
L'ingénieur Popoli rassure quant au suivi de ces ouvrages. Il demande aussi aux usagers de les respecter et de les protéger. Notez que ces feux fonctionnent à l'électricité, mais sont également munis d'une batterie leur permettant d'être autonomes pendant un certain temps.
Actualité internationale. Coronavirus. La Commission européenne annonce avoir signé avec Moderna, le laboratoire américain qui a annoncé un taux d'efficacité de 94,5% de son vaccin. La Commission a pré-réservé 160 millions de doses. C'est le sixième contrat conclu par Bruxelles avec un laboratoire. L'Union européenne avance à marche forcée vers l'acquisition du plus grand nombre possible de vaccins. Une stratégie qui provoque les doutes de certains, mais semble montrer son efficacité. Congo-Brazzaville, après un référendum mouvementé en 2015 et une présidentielle marquée par la contestation et des violences en 2016, les acteurs politiques congolais de Brazzaville ont décidé d'accorder leur violon avant la présidentielle de 2021. Des concertations se tiennent donc jusque vendredi 27 novembre à Madingou, dans le sud du pays. Les partis politiques sont invités à cette concertation en tenant compte de leur poids électoral. Et au Niger, décès de l'ancien président Mamadou Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch. Il est décédé
décédé hier à Niamey à l'âge de 82 ans. Un deuil de 3 jours sera observé dans tout le Niger.
L'invité.
Comment lutter contre la discrimination et la violence faite aux enfants vulnérables, dits enfants de la rue et orphelins? C'est l'objectif poursuivi par l'Organisation des jeunes chrétiens pour le développement OJCD dans le Nord Kivu. C'est en marge de la Journée internationale des droits des enfants, journée célébrée le 20 novembre. À cette occasion, cette structure a organisé des activités telles qu'une semaine de prière pour les enfants. Notre invitée, Aimée Balibouno Siri, présidente de l'OJCD, s'entretient à ce sujet avec Mathieu Ilunga.
Madame Aimée Balibouno Siri, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes en train de célébrer la Journée internationale des droits des enfants. Et aussi, pourquoi vous avez opté et vous avez choisi d'éliter contre la discrimination et la violence faite aux enfants?
Nous avons choisi d'éliter contre la discrimination et la violence faite aux enfants parce que nous, au JCD, nous sommes en train d'encadrer les enfants en partenariat avec certaines organisations. Les enfants de la rue et les enfants, les orphelins, les enfants vulnérables, en bref. Étant vulnérables, étant soit orphelins ou enfants de la rue, il y a la société qui régit ces enfants. Nous avons voulu organiser cette semaine de prière et d'action pour les enfants pour que nous puissions les aider à tourner d'abord les regards vers Dieu, notre Créateur tous, mais aussi leur donner encore de l'espoir et de temps de s'exprimer, mais aussi faire appel à toute personne de bonne volonté, nos autorités, les parents et même les enfants eux-mêmes, afin que nous tous nous puissions prendre conscience, que nous puissions voir comment aider ces enfants et que ces enfants puissent se retrouver intégrés dans la communauté, mais aussi que nous tous nous puissions penser à ces enfants. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons leur montrer que nous tous, nous pensons à eux et nous les aimons.
Combien d'enfants avez-vous déjà enregistré pendant une période de temps?
Nous avons enregistré plus de 50 enfants orphelins, mais aussi nous avons plus de 30 enfants de la rue. Comme c'est un centre ici, il y a des enfants qui viennent, ils font des activités, des musiques et aussi ils rentrent parce que, comme vous pouvez le constater, nous sommes encore juste au début. Nous n'avons pas encore de moyens pour que nous puissions prendre ces enfants en permanence ici, soit les orphelins, soit les enfants vivant dans la rue. C'est pourquoi ces enfants sont dans des familles d'accueil où nous sommes en train de les encadrer en partenariat, bien sûr, avec l'organisation COJED, CODEJ, et nous sommes en train de voir comment lutter parce que nous voulons vraiment que ces enfants aussi retrouvent leurs droits, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, vu les problèmes que nous sommes en train de connaître dans la communauté.
Qu'est-ce que vous faites réellement pour encadrer ou pour prendre en charge ces enfants?
Une fois que ces enfants sont chez nous, il y a des personnes de bonne volonté, famille d'accueil, il y a ceux-là qui se sont donné corps et âme de prendre en charge par rapport à leurs petits moyens, les aider. Certains étudient et d'autres n'étudient pas. Et c'est là avec des petites contributions de nos membres et aussi certaines personnes qui peuvent se porter garant de les aider. Donc la première, c'est envoyer ces enfants à l'école, notre première activité, mais aussi les encadrer aussi, les enseigner et leur montrer qu'ils ne doivent pas faire de mauvais nuire à la vie de la communauté. Par exemple, aller voler. Nous leur apprenons qu'eux-mêmes puissent s'exprimer auprès des personnes qui peuvent les aider.
Il n'y a pas de jour où nous avons vu que la police était en train de traquer certains enfants. En tant qu'organisation, que pensez-vous de cette opération de traque des enfants par les policiers?
Ces enfants n'ont pas quelqu'un qui va parler à leur place parce que la police fait partie des autorités qui peuvent aider les enfants. Une fois que les enfants sont égarés quelque part, la police doit aider ces enfants à les ramener soit dans la famille soit quelque part dans un centre qui encadre les enfants. Parce que nous, en tant que grandes personnes, nous avons des expériences. C'est à nous d'aider de tels enfants. Et la police qui est là pour assurer la sécurité des enfants d'abord, mais aussi de toute la population, et devrait son devoir aider ces enfants et les encadrer, mais aussi les cadrer. Et comment, s'ils sont dans de mauvaises choses, s'ils sont en train de voler ou soit s'ils sont en train de faire quoi que ce soit, c'est à nous de les montrer ce qu'ils font, c'est mauvais.
Quels sont les plaidoyers que vous faites au gouvernement provincial, au gouvernement central et à des ONG ou bien des bailleurs de fonds?
Ces enfants que nous encadrons, la plupart sont des orphelins vulnérables, donc ils n'ont pas ces moyens pour étudier. Et ceux-là qui étudient, ils sont d'ailleurs en retard parce qu'ils sont chassés chaque fois. Nous pouvons dire que d'abord, il y a la gratuité qui avait été annoncée par le président, que vraiment cette gratuité soit effective pour que les enfants puissent étudier, mais aussi que nous puissions aider ces enfants et aussi nous aider, et les bailleurs de fonds, mais aussi toute personne de bonne volonté, qu'ils puissent nous aider aussi à encadrer parce que certains enfants qui veulent aussi, en étudiant, qu'ils puissent aussi exercer certaines activités génératrices de revenus qui peuvent les aider. Parce que demain ou après, demain, ils peuvent ou pour ne pas avoir des moyens, de l'argent pour envoyer. Mais si l'enfant a été formé pour un métier quelconque, pour une activité, par exemple, les enfants qui sont à l'âge de faire une activité, une formation professionnelle, que le gouvernement puisse nous appuyer, que les bailleurs de fonds puissent nous accompagner par rapport à cela.
Bon, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Voilà, c'était là notre invitée Aimée Balibouno, présidente de l'ONG OJCD dans le Nord Kivu. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervision de Pele Kipela Mondo. Jean-Claude Sial a été à la mise en onde et Belinda Boussouma à la présentation. Merci.